I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Nive.
Salut.
Salut Nive, comment tu vas?
Très bien, écoute, et toi?
Ça va super, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi, merci à toi.
Ah, c'était vraiment un plaisir, hein. C'est un honneur de pouvoir écouter justement ta ou tes anecdotes. Donc, tu en avais une ou plusieurs à nous raconter?
Ben, écoute, comme tu l'as dit au début en intro, quand tu fais le métier d'humoriste, tu montes sur scène 4, 5, 6 fois par semaine. Donc, à un moment donné, ouais, tu vis des trucs de fou. On fait de la route, on va dans des salles, on fait des shows incroyables, on fait des shows tordus. Mais le principe, c'est de monter sur scène le plus possible. Et donc, ouais, à force d'en faire, ouais, on a tous des anecdotes de tournée, des anecdotes de corpo, tu sais, les spectacles corporatifs qu'on fait pour les compagnies, oui. Etc. Ouais, il y en a beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer, en fait. Disons, les plus choquantes. Je pense, ouais. 2020, pour moi, ça a été mes shows les plus, on va dire, originaux.
D'accord.
Ça a commencé avec des shows sur Zoom. Des shows, tu sais, il y a 2 ans, tu m'aurais dit, ouais, Nive, on va faire un spectacle, et tu as parlé devant ton cellulaire dans ton sous-sol à la maison, et je t'aurais envoyé paître en te disant, hey, j'ai travaillé toute ma vie là pour ça, là, va te faire pendre. Alors voilà. Que là, c'est arrivé comme une bénédiction, même, parce que, bon, tu sais, on est des gens qui travaillent tous les jours, et là, ça faisait 3 mois ou 2 mois qu'il n'y avait rien, que de la peur, de la panique, est-ce qu'on va crever, est-ce que c'est les zombies qui nous attaquent. Et finalement, un copain à moi, Phil Roy, qui est un excellent humoriste au Québec, qui a commencé ça.
Qui sera d'ailleurs dans le podcast.
Ah, bah voilà, donc il va t'en parler longuement. Mais le Wi-Fi Comedy Club, c'est un des premiers à avoir proposé ça. Au départ, lui, c'était pour roder son one-man show qu'il était en train d'écrire et de préparer sa sortie. Et il a vu après une semaine, bon, qu'il ne pouvait pas faire une heure et quart tous les soirs devant son ordinateur, ça devenait beaucoup. Donc il a commencé à appeler les copains pour venir faire des 10, des 15, tu vois. Bon. Et au début, j'ai dit non. Et tout de suite après, on m'a dit, bah, écoute, viens voir. Ce soir, on t'envoie le lien, regarde le show et tu vas voir ce que ça donne. Et au final, écoute, le principe de base était respecté, quoi. Tu envoies une blague et les gens te répondent par un rire, une, tu sais, whatever. Donc, c'était ultra sommaire, si tu veux, comme trip. Ouais, ouais. C'est, on passait d'une Ducati à un vélo, mais au moins, on roulait, tu vois. Et là, ça a commencé comme ça et s'en est suivi, ouais, man, 2020, fac. Alors, pour te donner un petit bilan rapide, on a fait des shows devant des téléphones, des ordis à la maison, après devant des caméras dans un studio avec le même principe. Après, on est sorti à l'extérieur, on a fait ça dans des ciné-parcs, des voitures garées devant la stage. Et à cause des mesures de sanitaires, ils ne pouvaient pas sortir des voitures, les mecs. Alors j'envoie la blague et ils klaxonnent pour dire que c'est bien.
J'en avais entendu parler de ça. Il disait que genre une applause, c'était des appels de phare.
Appel de klaxon, appel de phare.
Et, oh là là.
Et ce qui est complètement débile, c'est ta meilleure blague. Il n'y a aucune réaction parce que les mecs, ils sont en train de rire. Donc, ils ont oublié de klaxonner maintenant, tu vois. Alors, c'est débile. Toutes les bases, toutes tes références sur lesquelles tu travailles, ça fait 10, 15, 20 ans même à la poubelle direct. Et après, le point culminant de cette année complètement débile, arrive le festival Juste pour rire à l'automne. Et moi, j'ai participé au gala. J'en ai fait 2 ou 3, des galas Juste pour rire. Et écoute, Théâtre Saint-Denis, absolument vide. C'est une salle de 2300 places, là. Absolument vide. Et quand j'ai envoyé mon plus gros killer... j'ai entendu la caméra se déplacer sur la rail avec le petit moteur.
Alors, t'as tué de rire le caméraman, quoi.
J'ai tué de rire le moteur de la caméra, fils. Il était automatisé. Il n'y avait pas de caméraman.
Ah, il n'y avait même pas de caméraman.
Non, je pensais sur une rail avec un moteur.
Moi, je pensais que c'était le caméraman qui, à force de rire, en fait, avait un peu bougé la caméra, tu vois.
Même pas. Alors aujourd'hui, quand on me dit, hey, te rappelles quand tu as fait un spectacle et ça avait parlé, ouais, mais ramène-moi-en, mais comme ça, mais tous les jours.
C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai que l'année 2020, elle a été très, très spéciale. Et je pense que tous les humoristes, tu vois, on apprécie de jouer quand même, mais en vidéo, ce sera jamais la même chose que le live, quoi.
Non, mais écoute, on est bon mangeur, ouais, tu aimes bien manger de la bonne bouffe.
Oui.
Mais quand tu crèves la dalle, tu vas manger ce qu'il y a.
Absolument. Ah oui, mais c'est totalement ça. Moi,
alors,
tu sais,
c'est de la survie, tu sais, au-delà du monétaire, hein, parce que quand même, on a été bien supporté par le gouvernement ici avec la pandémie, etc. Ils ont envoyé de la thune à tout le monde.
Vous avez de la chance.
Mais au-delà de ça, la santé mentale, man.
Oui, bah c'est de la survie psychologique, c'est ce que j'allais dire.
Complètement. Ma femme, on est chanceux, on a un chalet dans la famille, dans les Laurentides, ici, dans le Nord. Et dès que ça a commencé à chauffer, on est allé là-bas avec le petit, parce que bon, dans un appart, avec le bébé, ça le fait pas.
Ouais, vous avez
donc, on a été se poser là, et à un moment donné, ma femme, elle me dit ok, il faut que tu arrêtes de parler. je dis comment ça ? Elle dit ouais, man, il faut que tu arrêtes de parler. Tu poses la question, tu réponds à la question, tu fais le débat, tu es tout seul, man. Et là, j'éclate de rire, et je dis ah ouais, hein. Je m'excuse, babe, mais ça fait comme 10 ans que je parle entre 200 et 2000 personnes par jour. Je parle pendant 3 heures tous les jours. tellement qu'il y a une preuve d'à quel point j'ai pété les plombs, ok. Mike Ward m'invite à son podcast,
oui.
Sous écoute, avec un copain à moi qui est un super podcast,
Premier podcast du Québec, oui.
Ouais, complètement, c'est un monstre. Et avec un copain à moi, Jacob Ospian Echeverria, donc on va là. Les premiers commentaires, c'est est-ce qu'il va laisser les autres parler. Franchement, j'ai parlé pendant 2 heures.
Allez voir l'épisode, tu vois, franchement. Je pense que si on regarde cette vidéo, on va se rendre compte de la souffrance que tu as eue à ne pas pouvoir parler devant devant le public et tout. Mais tu sais, quelque part, je me demande, est-ce que du coup, c'est toi qui as le plus galéré en 2020 ou c'est madame, tu vois ?
Tout le monde. Honnêtement, tu sais quoi, de mon vivant, c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui concerne tout le monde. Et surtout en humour, tu vois, c'est dur d'être universel. Tu sais, il y a quelques-uns qui l'ont fait. Seinfeld l'a fait, je veux dire, dès que tu as habité dans ce qui ressemble même à un village, tu comprends de quoi il parle, les interactions humaines. Mais en humour, dire quelque chose et que tout le monde te comprend dans la planète, c'est jamais arrivé encore. Tu vois, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a des gens qui ne savent même pas que c'est arrivé. Alors que
y en a qui y croient pas. Ouais.
Qui, même oublie ceux qui y croient pas, c'est-à-dire ceux qui y croient pas, ils ont même vérifié pour dire que ça n'existe pas. Aux États-Unis, je pense que la stat, c'est comme 33% des étudiants de secondaire ne savent même pas que ça existait. Oublie d'accord ou pas, ils ne sont pas au courant.
C'est violent quand même.
Les chiffres, peut-être je me trompe, mais c'est effarant. C'est une stat qui fait peur, c'est des millions de personnes. Donc, donc pour moi, tu sais, mon père, par exemple, il me dit, écoute, je veux dire, on a vécu des guerres, mais on était comme les populations concernées sur place. Le reste du monde a été témoin, mais est-ce qu'ils sont là, man, là, tout le monde.
Là, le monde entier est dans la même galère.
Le monde entier, mec, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus Wallou, là, c'est tout le monde pour sa gueule. Et ça a fait peur, man, et on n'a pas les codes. Tu vois, à la limite, une guerre, tu sais quoi faire. Je veux dire, tu entends la sirène, va te cacher, je ne sais pas. Personne ne sait comment faire. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'est il y a 100 ans, mec. Donc, c'est pas les mêmes références, tu vois. C'était la panique pour tout le monde. Et ça a testé les gens, même, tu sais. Ça a testé les couples, ça a testé les vraies personnalités des gens sont sorties. Parce que, tu sais, quand tu as peur, tu réagis des tripes, là. C'est pas réfléchi, là.
Mais je crois que pendant le confinement, il y a eu le record de divorces en Chine et dans pas mal de pays.
Ben ouais, grave. Mais grave, moi j'ai des copains, tu vois, qui sont des carriéristes, qui ont une super belle carrière, qui travaillent fort, qui sont des bons pères de famille, etc. Tu vois, mais bon, qui sont occupés par le travail. Et là, c'est la première fois qu'ils se retrouvaient autant de temps avec leurs femmes et leurs enfants. Et ils réalisent qu'ils en ont manqué des bouts, là. Ils ne les connaissent pas exactement, tu vois. Et c'est effrayant, ça.
Mais en tout cas, on a besoin de s'exprimer. Et en ce moment, on nous a enlevé notre seul moyen d'expression, la scène.
Grave, mais écoute, moi, ce que ça me permet de voir aussi, et je pense que ça, c'est valable en général. Tu sais, quand tu frappes un mur, tu as deux façons. Soit tu regardes le mur, tu dis, je l'ai frappé, hein, et là, tu restes là-dessus. J'ai frappé le mur, ouais, attrapé le mur, ouais, je suis rentré dedans, grave. Ou passe à côté, man, et tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et je remarque, tu vois, qu'il y a une réorganisation de l'échiquier après le Covid, parce que les gens qui étaient en top il y a 2 ans, c'est pas sûr que leur place, elle est gardée s'ils n'ont rien fait pendant 2 ans. Tu vois ce que je veux dire ?
Ah oui, Oui, c'est sûr, ça a challengé un petit peu le niveau des gens et puis leur motivation, leur persévérance.
Mais grave. C'est moi, j'ai vu plein de copains, par la force des choses, hein, qui ont trouvé des boulots et qui aujourd'hui se disent bah, finalement, c'est pépère recevoir son salaire aussi et rentrer à la maison tranquille le soir. Tu sais, mm-hmm.
Ouais, je comprends.
Ça a comme donné un coup de. Comment on va dire ? Un coup de niveau, là, tu vois, ça a remis tout le monde à zéro et là, on repart sur d'autres bases.
C'est vrai que ça a un petit peu secoué le monde de l'humour et tout, et puis ça a permis, j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas comment ça s'est passé au Québec, mais j'ai l'impression que ça a permis un petit peu d'épurer ceux qui voulaient juste briller de ceux qui aiment réellement la scène.
Et ouais, et ça peut être que ça. Parce que si tu fais peu importe le domaine, là, si tu rentres dedans pour. Les conséquences qui viennent avec, tu vois, mais qui ne sont pas le truc, tu perds ton temps. C'est-à-dire, si tu rentres en finance ou en entrepreneuriat, tu ouvres ta compagnie pour faire de la thune seulement, mais c'est pas assez une bonne motivation. Parce que n'importe quelle entreprise, tu vas avoir des moments où tu n'en fais pas, tu comprends. Et si le produit ne te passionne pas, je veux dire, tu ne peux pas... Il n'y a pas assez d'argent pour te faire avaler quelque chose que tu n'aimes pas. Tu vois,
c'est vrai, c'est vrai.
À un moment donné, une fois que tu as... Et bien sûr, je ne parle pas de besoins primaires. Là. Tu vois, si tu as besoin de boulot pour manger, ben, celui qui te paye, tu vas y aller. Tu vois,
bon. Vraiment, bien sûr.
Mais à un moment donné où tu as réglé ça, disons. Okay, tu manges, tu dors, ça va. Tu as le temps de réfléchir un peu et dire, bon, je fais quoi ? Mais tu ne peux pas rentrer dans quelque chose pour une conséquence qui est là, mais qui c'est pas ça, tu vois. Quand, par exemple, tu veux être avec une femme juste parce qu'elle est belle. Ouais, elle est nulle. Ouais, mais regarde comment elle est belle. Ouais, mais ça va se dissiper à un moment donné.
C'est vrai.
Et donc, après, tu restes qu'avec quelqu'un de nul. Et là, c'est vraiment pas cool.
Tout à l'heure, tu as utilisé le mot passion, tu vois. Tu as dit être passionné. Et
mais
c'est
grave,
exactement ça.
Parce que c'est seulement la passion qui te permet d'accepter des trucs moins cool.
C'est vrai.
Tu sais, on parle d'anecdotes de shows bizarres. Bon, j'en ai plusieurs. Tu sais, moi, dans les corpos, justement, c'est... Le corpo, c'est le meilleur exemple de...
Ouais.
C'est encore un travail. Parce que, écoute, on est payé grassement, on va dire,
oui,
pour
c'est
faire
vrai.
Un corporatif.
Excuse-moi, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Bon, on a eu des histoires de corpo dans plusieurs épisodes. Je rappelle juste, du coup, pour les auditeurs français, que le corpo, ce sont les spectacles pour les comités d'entreprise.
Voilà. Exact. Une compagnie arrive Noël, il veut offrir un truc à ses employés. Ils se retrouvent. Alors d'habitude, ça se fait en général dans des salles de mariage ou dans des restaurants. Tu vois, c'est pas des conditions top. Le patron, il ramasse la facture, il donne de la boisson et de la bouffe à tout le monde. Ils se retrouvent. Alors des fois, il y a de la musique, des fois il y a des fois ils engagent des humoristes et ils offrent le spectacle à ses employés. Alors les conditions varient de. On est une compagnie de 10 personnes. On va faire ça dans notre magasin. On a bougé un rack de chaussures, on a mis là-bas deux chaises, on va se mettre là. Ça va de là à on a loué l'Olympia et on a donné les billets à 1000 personnes et voilà. Tu vois, donc ça varie, mais on est bien payé et souvent tu y vas et c'est de la merde. Mais c'est ce qu'on appelle un gig alimentaire, tu vois. Bon,
ah, totalement.
Tu le fais pour la thune, mais à un moment donné, tu commences à accepter ça, qui fait partie de la job. Et tu ne peux pas l'éliminer, parce que ça représente une grosse portion de ce que tu fais dans l'année. Surtout quand tu n'es pas encore connu, tu ne remplis pas de salle. Tu vois ?
Oui, oui.
Donc, ça, c'est le genre de truc où la seule raison pourquoi je retourne encore et encore et encore, c'est parce que, ultimement, je suis vraiment passionné par mon métier. Et ça fait partie du métier. Tu vois ? Comme un chirurgien, il adore couper, il adore sauver des vies, mais il en perd. C'est normal. Tu comprends ? Et il doit aller dire aux familles, ouais, moi, j'ai pas réussi mon travail aujourd'hui. Il est mort.
Et du coup, au cours de ta carrière, toi, tu as perdu combien de vies ?
Tellement. Mais c'est pour ça que je suis bon aujourd'hui et que j'en perds de moins en moins.
Ah oui, bien sûr.
Tu vois ? Mais, un de mes pires à vie, tu vois, ça, c'est vraiment un de mes pires shows à vie. Les mecs, c'est le cégep, ça veut dire l'équivalent de première terminale.
Oui.
Dans un collège, ils ont une équipe de football américain.
Uh-huh.
Et ils sont en train de faire une levée de fonds pour payer, je ne sais pas quoi, des tournois, des trucs. Bon. 400 personnes dans un terrain de golf. Ça, en général, quand on te dit terrain de golf, tu sais que tu t'en vas à l'abattoir. En général.
Mais le plein air, en général, hein, de toute façon.
Ouais, non, mais c'est en salle. Mais l'affaire, c'est que toi, tu arrives, il est peut-être 8 heures le soir. Eux, ils ont commencé à jouer au golf à 7 heures du matin. Ils ont commencé à picoler à 8 heures.
Donc,
je peux te dire qu'à 8-9 heures le soir, ils ont contre-foot de ta gueule, tu vois, bon, déjà.
Ah oui, bien sûr.
Donc là, j'arrive et je dois faire une heure. OK ?
Oh, oui, beaucoup. Oui.
Ouais. Et là, je monte sur scène. Il y a une scène, il y a un micro, il y a de l'éclairage. Tout est beau. Il y a 400 personnes. Ils sont tous assis devant moi. Et dans des tables, tu vois, mariage, table ronde. Ça mange, ouais. Ça boit un coup. Bon. Ah. Et là, moi, je commence mon truc. Et normalement, tu commences, ça continue des fois à parler un peu, mais éventuellement, bon, ils vont se la fermer. Il y a un mec qui parle dans un micro, ça va aller. Bah écoute, pendant une heure, hein, et moi, je fais mon temps. Moi, je suis un des humoristes. En général, au Québec, c'est important. On te dit 40 minutes, fais 40. Ne fais pas 35, ne fais pas 30, fais 40. D'accord. Si tu veux dépasser, faire plus, ça, ça t'appartient. Tu as du plaisir, vas-y. Mais ouais. La règle générale, on t'a engagé pour temps, tu livres temps. Ouais, je commence mon heure et j'ai parlé tout seul pendant une heure. Et pas tout seul, je suis nul, ça rit pas, la vie continue. Ça trinque, ça fait des blagues. Hey, Marcel, viens t'asseoir. Imagine le mariage de ta cousine et tu as Hamid dans le coin, avec un micro en train de dire « Ouais, ça va les amis ?» Voilà, c'est ça.
Oh là là, la souffrance.
Un carnage, mec. Et là, je me rappelle, et c'est là que je te disais comment le corpo fait partie du travail. Je rentre dans la voiture. Ma femme était avec moi parce que quand c'est des hôtels et des trucs comme ça, j'invite ma femme avec moi parce que ça nous fait comme des petites vacances aussi, tu vois. Bon.
Ouais, bah, faut en
profiter. Et je rentre dans la voiture et là, je jette l'enveloppe avec le chèque et je pars en vitesse et les pneus ils font du bruit. Et là, vas-y, on y va, je suis énervé. Et ma femme, tranquillement, elle tire l'enveloppe du sol, elle ouvre, elle voit le montant et elle me dit, ouais, moi c'est presque un mois de travail ça.
Oh là là.
Ferme ta gueule. Et ce jour-là, j'ai fait « Ouais, ben ouais, ben ouais, grave. » Et elle m'a dit « Tu sais quoi, toi, dans l'année, tu as peut-être 2-3 jours où c'est pas top au travail. Et tout le reste du temps, je te vois même, tu vis ta passion, ça va. » Elle me dit « Moi, j'ai 2-3 jours par semaine où ça va pas au bureau. Ouais. » Alors, il faut remettre les choses en perspective. Se plaindre le ventre plein, c'est nul.
C'est vrai.
Tu vois, donc, ouais, ok, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'il y a des choses difficiles, mais combien de shows cool et combien de plaisir et combien de, man, c'est comme, pour moi, la balance, c'est, on n'en discute même pas, tu vois. Donc, et à la limite, plus tu as de l'expérience, moins ça te gêne, ça, tu vois.
Ben, tu sais que ça fait partie. Mais tu vois le potentiel comique, parce que éventuellement, tu vas aller faire un show dans un corpo ou quoi. Et ensuite, tu vas récupérer déjà une bonne somme d'argent. Donc, toi, tu vois le côté, je vais pouvoir payer des vacances à ma famille ou quoi.
Ouais, ou même payer les factures, c'est mon travail. Payer les factures. Après tout, tu vois.
Et surtout, je pense que quand t'es professionnel, après, tu te dis, au pire, ça me fera un nouveau set.
Ouais, non, mais même, ça fait partie du travail. Je veux dire, les meilleurs joueurs de foot au monde, ils ont des matchs de merde. Même Messi, là. Messi, il a déjà mal joué un match. Est-ce que quelqu'un va venir le voir? Ah, t'es nul. Ben non, ça fait partie de la job.
Ça fait partie.
Nous, à Montréal, on a le meilleur gardien de but au monde au hockey, Carey Price. Ben des fois, match de merde, ça arrive.
Ça arrive à tout le monde, c'est sûr. Mais tu sais, je pense, tu vois, pour en revenir à ta femme, en fait, qui te disait, moi, j'ai 2-3 jours de galère par semaine, et toi, c'est 2-3 jours par an. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Après, je pense que la différence se situe entre un travail normal, entre guillemets, et un travail passion. Tu vois, c'est que toi, en fait, Le mal que tu as ressenti, la honte et l'envie de mourir, prendre un pisse et avoir envie de mourir, tu vois, elle le ressentira jamais au bureau, ça. Tu vois ce que je veux dire?
Non.
Si quelque chose se passe mal, ça se passe mal. Elle va faire un peu la gueule, elle va être un peu gênée, mais voilà.
Exact.
Toi, sur scène, quand tu dois tenir pendant une heure devant des gens qui se fichent de toi et qui parlent entre eux, et même encore là, ça va, parce qu'on peut dire qu'ils ne t'écoutaient pas. Mais le pire, c'est quand les gens t'écoutent et ils t'offrent toute leur attention, mais tu n'arrives pas à les faire.
Ouais, tu vois ce que je veux dire?
Là, ben voilà, cette sensation-là de devoir bider pendant tout ton spectacle, tu fais un four, comme on dit, tu vois. T'imagines, est-ce que ça, elle le vivra un seul jour dans son boulot ou n'importe quelle personne? C'est pas uniquement.
Ouais, non, c'est ça, je comprends.
Tu vois,
je dis ça à tout mon entourage, qui veut bien l'entendre. Trouve un truc qui te passionne. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, il n'y aura jamais assez d'argent pour que tu l'aimes. Mais si tu fais quelque chose que tu aimes profondément, même quand il n'y a pas de cash, ben, tu es quand même heureux.
Ah, mais moi, je sais que ça m'arrive encore de faire des spectacles. Tu vois, par exemple, si jamais une association me demande de venir jouer avec des copains, faire un plateau, tu vois, et puis jouer gratuitement, genre pour ramasser des fonds, ça me dérange absolument pas. Mes amis non plus. On est là pour ça parce qu'on prend du plaisir de base à jouer. C'est-à-dire que ça fait tellement mal quand t'es dans les lows, tu vois. Genre, quand tu prends un beat, ça fait tellement mal. T'as envie de mourir, vraiment.
Ouais.
Quand t'es sur scène, t'as envie de mourir physiquement, clairement, tu vois. Et ouais. Par contre, quand tu tombes dans les highs, même si ça t'arrive que de temps en temps, c'est tellement bon que tu te dis, j'accepte d'endurer tout ça, tu vois.
Ouais, et tu sais quoi, moi, je vais te dire même plus loin. À un moment donné, les lows, d'abord, il y en a moins, premièrement.
Oui.
Et ils font partie du métier.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ok. Uh-huh. Je te donne un exemple. Par exemple, au baseball, les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs, on dit qu'ils frappent pour 300. Ça veut dire chaque 3 lancers qu'il reçoit, il en touche une.
D'accord.
Ça, c'est les meilleurs.
Ah ouais, d'accord.
Les meilleurs. Uh-huh. Mais ça veut dire que les meilleurs, ils en ratent 2 sur 3.
Ah ouais, 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 c'est ouf.
Alors, qu'est-ce que tu laisses pour le reste ?
Eh ben oui.
Alors, voilà. Alors, maintenant, au début, moi, j'ai déjà dit à mon gérant, mon premier corpo de ma vie que j'ai. Mon premier. Ouais. J'y pense à faire. Premier corpo que j'ai fait de ma vie, OK ? Uh-huh. Une école à Chicoutimi, qui est une ville. Qui est une ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à 2 heures au nord de la ville de Québec, à 5 heures de Montréal à peu près.
Ouais, ouais.
Je vais là, je dois faire 1 heure, mais à l'époque, j'ai 1 heure. Point. Ouais. Et ça veut dire, si ça rit pas fort et tout, c'est vraiment 50 minutes. Mais disons.
D'accord.
Et là, moi, dans ma tête, école, je me dis, bon, ça va être des secondes, ça va, quoi. Tu vois, ils sont allumés quand même, je peux faire mon truc.
Ouais.
J'arrive, c'est, comment on dit, CE2, 6e.
Ouais,
CE2, 6e. En tout cas, ils ont entre 10 et 13 ans.
Oui, oui, donc ouais, c'est ouais, du CM2 jusqu'à 4e, je pense.
Même plus jeune que ça, des enfants.
Ah, d'accord, ouais, donc CE2, ouais, du CE2 à la 4e,
ouais,
peut-être, ouais.
Exact. Là,
c'est dur de jouer devant des enfants, ouais.
Mais attends, là, j'arrive le matin et je remarque que mon matériel, il n'est pas du tout fait pour des enfants. Je parle de drogue, je parle de voyage, je parle de parents, je parle de sortir dans des bars,
Ouais, donc c'est les enfants.
Là, je suis avec ma femme et je me dis, bon, ça, je peux pas faire. Mmh. Au final, je vais faire 1 heure, je fais comme 18 minutes, il y a 0 rire. Il y a un rire du prof d'histoire à un moment donné quand je dis, j'avais une blague, les hommes ont fait tout pour plaire à une femme. César, pourquoi tu penses qu'il a été en Égypte? Clairement pour Cléopâtre, que tu veux qu'il aille foutre en Égypte? Il n'y a rien à faire là-bas, il n'y a que du sable. Et je dis, en plus, même Moïse, il a quitté. Et quand un juif. J'ai quand un juif te dit qu'il n'y a pas d'argent à faire, ben casse-toi. C'est le seul rire que j'ai eu. Un prof d'histoire, une fois. Là, je sors de scène, désaxé, là, comme tu dis. J'arrive et la meuf, elle me dit, mais on vous a engagé pour 1 heure. C'était notre cadeau pour Noël, pour les élèves. Je suis désolé, je ne sais pas quoi vous répondre. Je peux vous montrer mon ordinateur. Mes blagues, ça parle de ça. Je ne pouvais vraiment pas les faire devant eux. Elle me dit, mais on fait quoi, là? Écoute, je ne sais même pas quoi te répondre. Appelle mon gérant. Paye ce que tu veux, ne paye pas même si tu veux, c'est pas grave. Je suis désolé. Ah, je rentre dans ma voiture et j'appelle mon gérant. Jamais de ma vie, je vais faire du corpo, plus jamais. Là, il me dit, oh Coco, calme-toi, respire, ça va aller. Tu vas apprendre à en faire. Et heureusement, tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment parmi ma plus grosse source de revenus. Et mieux encore, j'ai du plaisir aujourd'hui. Parce que c'est d'autres codes, c'est un autre sport. Tu comprends? Il y a le basket de la NBA et il y a le basket au parc.
C'est vrai.
Le basket au parc, tu vas prendre un coup dans la gueule. Il se peut que tu saignes. C'est possible. Mm-hmm. NBA, l'arbitre, il va siffler. Dans la rue, mec, démerde-toi. Là.
C'est vrai.
Donc, c'est un peu cette énergie-là. Alors, mais ce qui me rallie tout le temps, c'est la passion. Et c'est ça, ça revient à ça, je pense. Il faut trouver un truc que t'aimes dans la vie, mais sinon, c'est trop long, mec.
C'est vrai que ouais, quand tu travailles dans quelque chose que t'aimes, t'es toujours prêt à en faire plus. Et puis, tu recules pas devant l'effort et tout. Voilà,
ouais, t'as l'ambition, surtout.
Oui.
Tu sais, rester apathique là en face d'un truc, c'est terrible.
Mm-mm.
Et il y a une génération que je comprends le pourquoi. Tu vois, mes parents, par exemple, ils ont immigré. Il y avait une nécessité, tu vois. Nous, on est chanceux. Moi, je suis chanceux, mec. Je suis né dans de la ouate. Mes parents travaillaient très fort pour s'occuper qu'on manque de rien et qu'ils nous a laissé le temps de faire ce qu'on voulait pour vrai. Tu sais, bah, quand j'ai commencé l'humour, bon, c'est vrai que j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté le boulot, j'ai tout arrêté. Mais je dormais chez ma mère et mon père, et le frigidaire, il était plein, il y avait de l'essence dans la caisse.
Ouais, t'avais le confort, quoi. Ouais.
Ah ouais, alors que je vois d'autres humoristes jeunes qui arrivent ici. Ah ben oui, il fait de l'humour quand il peut, parce que le reste du temps, il doit travailler, il doit payer le loyer, il doit manger. Il doit... Bon. Alors moi, j'ai eu ce luxe, mais ce qui a calmé, si tu veux, entre guillemets, mes parents, c'est la passion qu'il y avait derrière, ils voyaient bien. Ils voyaient bien, oui, c'est ça que j'allais faire. Donc,
tes parents, quand ils voient que c'est pas une lubie que tu vas laisser tomber au bout d'un an ou deux, ils te soutiennent quand même, ils veulent que tu sois
heureux. Ouais. Mes parents, c'est à l'ancienne, mais en même temps, ça a toujours été fais ce que tu veux, mais tu le fais bien.
D'accord.
Mes parents, c'est la seule règle qu'on avait. Fais ce que tu veux, mais fais le bien, ne me fais pas honte. Tu vois, bon.
D'accord. C'est beau comme philosophie, c'est très bien.
Ouais, parce que eux, ils ont fait ces choix-là. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, tu vois, pertinemment. Ils ont déménagé, ils ont changé de pays. Des Marocains qui arrivaient au Canada en 72 même, tu vois. C'est quand même.
Ouais, d'accord.
C'est quand même tout un saut, là. Mais ils l'ont fait, ils ont étudié, ils ont fait du sport, ils ont fait de la. Ma mère, elle a fait du ballet classique, elle a enseigné jusqu'à 30 ans. Mon père, il a joué au basket jusqu'à 35. Tu sais, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils sont devenus profs, directeurs d'école, machin. Bon. Mais ils ont toujours poussé fort, tu vois. Mm-hmm. Et mes parents, ça a toujours été ça. Musique, pas de problème, mais c'est pas le mec du coin qui va donner des cours. Tu vas au conservatoire, tu vas apprendre. Tu vois, c'est toujours comme ça. Éducatif et de la pression pour performer. Ça veut dire pas performer par rapport aux autres, mais par rapport à toi. Tu vois, pousser fort.
Mmh. Eh bien, écoute, c'est très bien. C'est une belle façon de voir les choses et d'encourager ses enfants. Mais il faut, c'est sûr, quand il faut faire les choses, il faut les faire à fond pour se donner les moyens et ne pas avoir de regrets derrière, quoi.
Grave. Et c'est pour ça que ça revient au show de merde. Quand tu fais un show de merde, tu vois, c'est de la merde. On est d'accord, c'est nul. Tu n'es pas content, comme tu as dit. Tu sens la mort t'habiter. Parce qu'un public qui ne rit pas dans ta face, La vraie équation en humour, c'est ça, ça prend du temps à le comprendre, ça. Mm-hmm. C'est une conversation, premièrement. C'est pas un spectacle, c'est pas du théâtre, c'est une conversation. Okay, mm-hmm. Et le seul mot de vocabulaire qu'ils ont, le public, c'est rire.
Ouais.
Et il rit, c'est oui. Il rit pas, c'est non. Alors, quand tu comprends ça, dis vraiment quand ça marche pas, c'est « Hey, tu m'aimes ?» Non.
Oui, mais c'est totalement ça. Ben, on recherche l'amour et l'approbation du public.
Ils te disent non pendant 15 minutes ou 20 secondes. Au fait, est-ce que tu m'aimes maintenant? Non, toujours pas. Ah, un peu, mais c'est nul. Continue. Alors continue que quand ça marche, tu dis ça va et ils te disent on t'aime. On t'aime. Quand tu reçois tout cet amour, toute cette adrénaline, tout ce contrôle, parce que c'est du contrôle aussi, il ne faut pas l'oublier. Tu contrôles une populace devant toi, là. Tu le sais, tu l'as vécu sur scène, c'est sûr. Si tu n'as jamais vécu ça, c'est parce que tu dois en faire plus, mais en 8 ans, c'est sûr que oui. Quand tu les as dans ta main, là, amènes où tu veux.
Ouais, c'est vrai.
Ce contrôle, mais c'est un truc de dictateur, frère. C'est un truc de. Aujourd'hui, le pays va me donner ce que je veux. Hein,
c'est vrai que ça peut monter à la tête.
Ben ouais, et ça monte à la tête et approuvé. On retourne faire des shows alors qu'on sait pertinemment que ça va être nul. Tu vois ?
Ben écoute, on y retourne en espérant retrouver ce mood de dictateur, on va dire.
Mais écoute, je dirais à ceux qui nous écoutent, s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui veulent en faire, les mauvais côtés se font exploser par les bons.
Oui, c'est vrai.
Tu vois ? Et si c'est quelque chose qui t'habite, là, tu te lèves le matin, tu y penses. Fonce et ne prends pas les défaites comme une défaite. Il faut les prendre comme un apprentissage. Et parce que je te dis, à un certain moment donné, il n'y a plus de show de merde. Il y a des shows moins bien. Tu es moins satisfait de ta performance.
C'est l'expérience. Après, tu te professionnalises et tout. C'est ça.
Par exemple, on peut voir un athlète professionnel et dire alors aujourd'hui, c'était de la merde, mais on a gagné. C'est pas grave. Moi, j'ai mal joué. Tu vois.
D'accord, t'es déçu de ta prestation. Mais
des fois, moi, je vois des. Je pense que j'ai eu des shows, ça m'est arrivé une fois, des shows, tu sais, quand il y a un mec qui ne rit pas dans la salle. Mm-hmm. Il y en a un, j'étais fixé sur lui. Pourquoi il ne rit pas? Allez, rit. Il n'a pas ri du tout le spectacle, man. Ça m'a rendu malade. Les bras croisés, man, un bonhomme, il me regardait avec une tête sale gueule. J'étais à l'envers que je n'ai pas réussi à le faire rire. Oh. Après le spectacle, il vient me voir.
Mm-hmm.
Hey, merci. Pourquoi? C'est le meilleur spectacle que j'ai vu de ma vie. Hein, mais t'as pas souri, mec.
Grand classique, ouais.
Mais tu le sais pas, toi. Donc, fais bien les choses. Donne ton maximum. Tu sais pas ce que tu peux atteindre. Et à un moment donné, dans la carrière d'un humoriste, tu commences à recevoir des messages du public. Tu sais, moi, dans les débuts, là, il y a toujours ce questionnement. Est-ce que je suis un clown? Est-ce que... C'est surtout nous, les immigrants, les maghrébins, les africains, ceux qui ont des parents qui ont vécu des gros changements, on va dire. On est élevé avec « deviens médecin, deviens comptable, assure tes arrières », ouais, c'est un peu ça. Et donc, à un moment donné, tu te dis « c'est vraiment ça que je fais dans la vie, man. Je roule 2 heures pour aller dans un bar miteux là, pour faire rire 20 personnes, c'est ça ma vie ?» Et là, tu reçois un mail ou un message sur Facebook, Insta, peu importe. Et salut, je veux juste te dire merci. Ça fait 2 ans que j'ai une vie de merde. Ma femme m'a lâché. J'ai un cancer. J'ai un tata. Et pendant 1 heure, j'ai oublié tout ça. Merci. Ça te rentre dedans, mais comme un camion, mec.
C'est beau, c'est beau.
Mais ouais, et c'est là que tu te dis bon, ben, je suis pas juste un clown.
C'est vrai.
Et j'ai pas juste à faire rire. Je dois dire des choses aussi. Je dois être à l'aise avec ce que je dis. Donc, ouais, c'est un beau métier, mais c'est beaucoup de hauts et quelques bas. Mais il faut vivre avec, quoi.
T'as totalement raison. C'est ce qui fait la beauté du métier au final, parce que si t'avais que des beaux spectacles, si t'avais que des trucs qui se passaient en mode dictateur, ça marcherait tout le temps, tu aurais pas le goût de ça, tu vois.
Alors que tu deviens blasé.
Voilà, c'est ça. Alors que quand des fois ça se passe mal, mais après ça se passe bien, là tu te dis j'ai gagné ce soir, c'est une nouvelle victoire, tu vois.
Grave. Voilà. Grave. Et après, tu vois, par exemple, moi je fais les premières parties de Louis-José Houd, ça fait là, avec la pandémie, ça fait 3 ans là, mais disons, pendant 2 ans j'ai été en tournée avec lui. Toutes les semaines, tout le temps. Et lui, c'est le patron ici, tu vois. Bon.
Ah ouais,
c'est ce qu'il veut. Tout est vendu. C'est le meilleur humoriste qu'on a au Québec. Le mec, vraiment, c'est une bombe, tu vois. À un moment donné, je lui dis, mais mec, il fait des grosses tournées, 300, 400 shows, là, tu vois.
Ouais.
Comment tu fais encore du plaisir au show 380, même, you know ? Ça fait 380 soirs que tu respectes la même salade pendant 1h15. Là, il me dit, j'ai trouvé mon plaisir dans d'autres trucs. Alors, il se dit, par exemple, ce soir, je fais un sans faute. Ça veut dire qu'il n'a pas hésité, il se met d'autres challenges, tu vois.
Il se met des petits défis.
Oui, parce que quand tu commences, tu as eu 2 rires en 15 minutes, tu penses que tu es un grand héros.
Il y en a qui sont contentes, j'avoue, il y en a qui sont contentes.
Mais ouais, tu sors de là-bas, tu dis alors, hein, bien, et les autres, ils ne savent pas regarder parce que tu viens de prendre un bide, mais tu ne le sais pas, toi. Parce que tu es passé de 0 rire à 2 rires, donc magnifique.
Ah bah oui.
Mais le jour où tu sais que ça rit, ça y est, tu as fait ta preuve, c'est bon. Maintenant quoi? C'est pour... Voilà, Messi, tu crois qu'il kiffe pas encore de jouer au foot? Mais bien sûr que oui. Federer, qu'est-ce qu'il a à prouver encore? Rien. Il a gagné récemment un trophée, il a pleuré. Encore.
Continue à prendre des plaisirs, ils se mettent des challenges. Là où nous, notre challenge à nous, c'est de remplir les salles et de faire rire les gens, eux, leur challenge, ça va être d'avoir encore plus de rire, tu vois, genre le ratio rire.
Le micro-rire, mec, tu sais, c'est un contrôle total. Et je l'ai vu chez des jeunes, chez des plus vieux, chez des gars qui ont du succès, des gens qui n'ont pas de succès. Ça reste toujours ce sport avec toi-même, tu vois. Qu'est-ce que moi, je livre comme performance, tu vois, c'est surtout ça.
D'accord. Oui, ben c'est un sport et puis on continuera à s'entraîner. On va essayer de tenir la distance parce que je sais plus qui disait ça, mais c'est vraiment pas l'humour, c'est vraiment pas un sprint, c'est plus une course de fond. Il faut tenir sur la distance. C'est un marathon en fait, c'est un marathon.
Mais comme toutes les carrières, hein, on rêve tous d'être plus un Bob Dylan que je sais pas moi, Lou Béga avec Mambo Number 5. Là, tu vois.
Il y a beaucoup de gens qui n'auront pas la référence.
Lou Béga, mais oui, c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the house.
La musique, si tu veux, les gens vont la connaître, mais quand tu as prononcé le nom Lou Béga, je pense qu'il y a eu quelques AVC dans les auditeurs.
Ça y est, je vieillis, mec, mes références.
Ah non, t'inquiète pas, j'ai les mêmes références que toi. Et vraiment, c'est juste parce que, justement, ton exemple, il est complètement criant de vérité. Parce que tu compares Bob Dylan, bon, désolé, je le prononce à la française. Hein.
Il faut.
Tu vois, tu compares Bob Dylan, tu vois, je vais essayer de la faire.
Yes, American, bravo.
American. tu compares Bob Dylan et un mec dont on est obligé de rappeler la musique. Mais si, Lou Béga, celui qui chantait, là, Mambo Number 5 et tout, tu vois.
Ouais.
Rien que le fait de devoir préciser, c'est clairement ce qui montre la carrière fulgurante d'un mec qui a tenu la distance sur des décennies et un mec qui a fait un coup d'éclat sur 1 an ou 2, quoi.
Ouais, exact. Et écoute, et moi, tu vois, au début, comme tout le monde, tu sais, tu as des aspirations de devenir tout de suite une vedette. Mais le métier d'humoriste, c'est tellement un métier qui te rentre dedans tous les soirs. Tu te prends des baffes, tu vois, que tu réalises qu'au final, c'est pas le végétarien, on s'en fout là. C'est pas ça. C'est d'être capable de faire ça tous les jours pendant longtemps, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, moi, maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça. Si demain on nous dit ça n'existera plus le spectacle en live, plus jamais tu vas faire des blagues, ben mec, je me vois mal là, retourner trouver un boulot là.
Ben oui, oui, ça y est.
C'est vrai.
T'es imprégné de la scène et du contact avec le public.
Et la liberté, mec. La liberté, ouais. Je fais ce que je veux. Ça fait 10 ans que je fais ce que je veux, que je suis responsable de mon succès et de mes chutes, tu vois.
Ouais, tu te lèves à l'heure que tu veux et tout, ouais, je comprends.
Ouais, la compagnie, c'est moi, quoi. Le produit, c'est moi. C'est, tu comprends, je vends moi tous les jours. Et d'avoir cette liberté de penser, de créer, de faire des choix, de se retourner et je ne dis pas que ce n'est pas valable, tu vois, au contraire, il y a des gens qui excellent dans des domaines complètement différents de la liberté artistique, et je suis très conscient de ça. Mais le seule chose qui doit arriver, c'est que tu sois passionné. Parce que des vrais passionnés, ça donne Elon Musk, man.
Ah ouais.
Elon Musk, il n'est pas là pour le fric. Le fait qu'il en fait, c'est une conséquence de ce qu'il veut faire.
Ah mais lui, ouais, c'est un exemple de passion et de
tous. Mais regarde vraiment. Steve Jobs. Les mecs, c'est des psychopathes. Oui. Ok, est-ce que vous avez vu? Oui, vous avez vu sur Netflix le documentaire là sur Michael Jordan, The Last Dance. Bon.
Ouais.
Avec tout ça, j'ai adoré. Tu vois le niveau qui m'a. Moi, ce qui m'a le plus éclaté, c'est au-delà du talent et de bon Jordan, bien évidemment, tu vois, mais le niveau d'engagement. Ouais. Quand il dit que il y a un mec qui lui a mal parlé. Et qu'il s'est énervé contre lui. Le prochain match, il lui a mis 60 points dans la gueule. Waouh, cool. Au final, il lui a jamais même parlé, le kid. Uh-huh. Et l'autre débile, il s'est dit, non, il faut que je me motive, là. Ah, lui, il m'a mal... Qui t'a parlé? Personne t'a calculé, frère. L'autre, il s'est chauffé tout seul. Le prochain match, soit... Mais ça, ce niveau de malade mental, ben, c'est des malades mentaux. C'est ça, la vraie passion, mec. Uh-huh. Ils ne sont pas là pour l'argent, ils ne sont pas là pour les... Tu vois, Kobe Bryant, par exemple, je voyais un documentaire sur lui où il y a un coach, à un moment donné, il explique qu'ils ont fait comme un week-end où ils ont pris les 50 meilleurs joueurs en bas de 18 ans ou en bas de 16 ans des États-Unis et ils passent 3 jours avec Kobe et ils leur donnent comme un camp d'entraînement. Voilà, alors là, le coach, il dit, moi, je suis un coach au collégial et c'est mes enfants que j'envoie, c'est ça que je forme tous les jours. Bon. Et là, il avait entendu parler que Kobe, quand il s'entraînait, son entraînement et son échauffement, c'était comme impressionnant à voir. Alors, il va le voir le premier jour. Il dit, hey, salut Kobe, je me présente. Voilà, tata. J'ai entendu ton entraînement, c'est malade. J'aimerais assister. Il dit, avec plaisir. On commence à 4 heures. Il dit, mais non, les jeunes, ils ont rendez-vous à 3 heures. Il dit, non, 4 heures du matin. Il dit, ah, d'accord. Il dit, alors, j'arrive au gym à 3 heures et demie. Je voulais arriver avant lui. Uh-huh. 3 heures et demie du matin, là. J'arrive, je vois que le gymnase, il est allumé, j'entends des bruits de balles, de chaussures, ça bouge, il est déjà là, il s'échauffe. Là, il dit, je voyais ça, il était tellement concentré, je me suis assis. Je lui dis, c'est quoi, je ne vais pas le déranger, je vais le laisser faire. Pendant 2 heures, il a fait des mouvements qu'on apprend, qu'on commence à apprendre au basket. À 2 pas, lay-up, voilà, tu te tournes, tu tires, tu te tournes, tu tires. La base. 2 heures. Là, il va le voir après l'entraînement, et merci, j'ai assisté, c'était super et tout. Je peux te poser une question? Il dit, ouais, bien sûr. Il dit, t'es un joueur, t'es comme le meilleur joueur du monde et pendant 2 heures, tu as pratiqué les trucs les plus basiques qu'on enseigne à des enfants de 7 ans. Mmh. Il dit, mais pourquoi tu penses que je suis le meilleur au monde?
Oui, parce qu'il n'oublie pas la base.
Lui, quand il tire, ça rentre. Point. Ne casse pas la tête. Voilà. Alors ça, c'est quand tu vois l'élite, plus que l'élite, le comète, oublie ça. Ce mec-là, il te dit, encore je fais un lay-up, encore je fais un tir de lancer franc tous les jours. Tu dis, ouais, ok, mec, alors allez, va travailler. Va travailler, va perfectionner ton truc, mec.
Ah, mais c'est un bel exemple de persévérance et puis de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier la base, de ne pas négliger les choses les plus simples dans notre passion.
Il ne faut pas devenir une vedette, mec.
Pour le moment, jusqu'à présent, j'ai réussi, ça va.
Ah, ben bravo.
Bon, merci en tout cas, Niv, merci beaucoup. Merci, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Oui, Niv humoriste, pas mal sur toutes les plateformes.
Avec plaisir, donc Facebook, Twitter, YouTube, Instagram.
Exact, Niv humoriste, on est là partout.
Ok, bah, je mettrai tous les liens, il n'y a pas de souci. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt, bis à tous, même à toi là-bas.